Le grand direct de RCF Haute-Loire, ici en direct de l'Observatoire du Bes à Saint-Julien-Chepteuil. Alors nous sommes ici devant la coupole. Alain Mourleva et Jean-Michel Viali m'accompagnent, tous les deux de l'association Orion, membres de l'association Orion. Alors messieurs, on va entrer tout doucement, tout tranquillement à l'intérieur de cette coupole. Elle est sur place depuis... ça commence à faire, hein, mine de rien, Jean-Michel Viali, la présence de cette coupole ici sur le site du Bes.
Depuis les années 80. Voilà, donc nous avons hérité au groupe Orion en 1998, puisque c'était deux astronomes amateurs de l'association astronomique de Saint-Julien qui avaient bâti cette coupole, hein, donc cette petite tour avec la coupole dessus. C'est le mythe de l'astronome, la coupole. Hein.
Donc, nous, c'est le must du must de... voilà.
Oui, quand les gens viennent sur un lieu astronomique qui voient une coupole, ça tout de suite, déjà on a la tête dans les étoiles, hein, quand on voit une coupole.
Voilà, c'est le symbole illustre vraiment de tout site d'astronomie. Alain, pour bien resituer à nos auditeurs, ici donc sur ce site, on a une partie pour l'observation à l'œil nu et puis la coupole. Hein, c'est vraiment les deux éléments bien dépendants les uns des autres.
Oui, voilà, puisque effectivement la coupole elle est beaucoup plus ancienne. Elle sert essentiellement au groupe Orion, c'est-à-dire aux adhérents de l'association, pour observer et faire de la photo, puisqu'on a un télescope. Et l'enjeu, c'est qu'on a refait nous-mêmes un télescope, donc on va voir tout ça dans le détail. Et la plateforme là, où on installe les instruments mobiles, hein, donc il faut les installer régulièrement, c'est plus pratique pour le public, parce que c'est plus accessible, c'est plus facile à se déplacer, et on n'a pas l'inconvénient de monter dans l'observatoire et de grimper parfois à l'escabeau pour aller observer le ciel. Donc c'est plus utilisé par les adhérents que par le grand public. Mais c'est toujours, ils veulent tous le voir. Tout le monde a envie de monter dans cette coupole pour voir comment ce fameux télescope a été fabriqué par des amateurs et comment c'est possible de réaliser un tel instrument.
Allez, on va aller le découvrir, ce télescope. Messieurs, vous m'embarquez non pas dans l'espace, hein, mais bien à l'intérieur de cette coupole. Hein. Pas de blague, hein. Messieurs, vous n'allez pas actionner la machine en direction de l'espace. Juste, Jean-Michel, voilà, on va passer la porte de cette coupole. Voilà, nous y sommes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut observer à l'œil nu. Le public peut-être ne se doute pas tout ce qu'on peut observer peut-être à l'œil nu sans aller dans cette coupole.
Alors de toute façon, oui, simplement le fait de regarder le ciel à la nuit tombée, donc que la nuit devient bien noire, déjà les deux points brillants que vous pouvez voir ce soir, eh bien, vous avez Jupiter et Saturne qui sont déjà bien présentes dans le ciel, mais nous allons y revenir tout à l'heure.
Allez, on va monter, on va passer un petit escalier. Voilà, on va monter doucement. Voilà, on est à l'étage de cette coupole, devant donc ce fameux télescope. Alors, télescope qui mesure à peu près combien là? On a une petite idée là?
Oui, c'est un télescope qui a une focale de 2 mètres. Non, c'est rien, c'est que la porte qui s'est refermée. Donc on a un instrument qui est un peu volumineux, mais qui n'est pas d'une dimension extraordinaire, puisqu'on a un miroir qui est à l'intérieur de 40 centimètres, 400 millimètres, on parle en millimètres en astronomie,
d'accord,
et d'une focale de 2 mètres. Donc pour ceux qui font un petit peu de la photo, hein, d'avoir une focale de 2 mètres, ça fait un joli téléobjectif. Mais avec ce télescope, on va regarder essentiellement le ciel profond, parce qu'on a un rapport FD de 5, ce qui fait qu'on va sortir du système solaire. On va aller voir les nébuleuses, on va aller voir la naissance, la mort des étoiles, les groupes d'étoiles. Et puis, bien sûr, on va sortir de notre galaxie, la Voie lactée, et aller voir les voisines, hein, Andromède, et beaucoup plus loin. Mais il est très intéressant, ce télescope, parce qu'il est... Il est installé en permanence, c'est-à-dire qu'il est mis en station, on appelle ça en astronomie, il est réglé pour suivre le ciel constamment. Dès qu'on met le petit moteur en route, qui est là-dessous, eh bien notre télescope va suivre les étoiles. Il va compenser la rotation de la Terre, ce qui fait que c'est très intéressant parce que les étoiles restent fixes dans l'oculaire dans lequel on regarde. Voilà, mais on a une mécanique assez simple, fabriquée par des artisans, des amateurs. On a des morceaux de chevaux, des morceaux de camions, il y a du bois, si on décrit ça, ça paraît assez spartiate. Mais finalement, ça marche assez bien. C'est la mécanique de bon papa, de bon vieux papa. Alors nos jeunes s'en servent de moins en moins. Ils sont habitués à l'informatique, avec des télescopes pilotables, avec des GPS et tout ça. Alors que là, vraiment, on découvre un télescope tel que Newton l'a inventé il y a longtemps, puisque c'est Isaac Newton, le fondateur des télescopes. Avant, il y avait des lunettes d'astronomie. Et le principe du miroir, le principe de renvoyer la lumière dans un miroir, ça date de l'époque de Newton. Mais beaucoup d'autres personnages illustres ont travaillé pour améliorer tout ça, comme Léon Foucault, entre autres, le couteau de Foucault, qui nous permet de mesurer la qualité d'un miroir. Jean Texoro, Pierre Bourges, le fondateur des astronomes amateurs. Donc on va retrouver toute une histoire de la construction de ces premiers télescopes, avec lesquels on a fait des grandes découvertes, avec ce système de monture. Edwin Hubble a quand même découvert l'expansion de l'univers avec le Mont Palomar, avec un télescope important, mais toujours monté avec ces grosses montures, avec des choses chose qui pesait des tonnes.
Alors justement, à titre de comparaison, les plus grands télescopes qui équipent les grands observatoires français, je pense à l'Observatoire du Pic du Midi, ils mesurent combien de les plus grands télescopes en termes de dimension pour avoir une comparaison avec l'outil qui équipe ici votre observatoire ?
Oui, alors là, ça change complètement de dimension, puisque les professionnels vont jusqu'à des dimensions de 10 mètres, des miroirs qui atteignent 10 mètres, les fameux miroirs des télescopes européens, le VLT, à la Cordillère des Andes, sont des télescopes avec des miroirs de 8,40 mètres d'un seul bloc.
Donc là, ça veut dire que la traduction, c'est qu'on peut voir vraiment très très loin, jusqu'à combien ?
Alors, jusqu'à combien, c'est toujours un petit peu compliqué. Jusqu'à, je dirais... Quand ? Je dirais plutôt dans le temps, parce que plus on va loin, plus on remonte le temps. Donc les grands télescopes de l'univers vont analyser des étoiles, vont analyser des choses qui se passent dans d'autres galaxies bien plus loin, et dans des longueurs d'onde particulières. C'est que le visible n'est qu'une petite partie du rayonnement électromagnétique. Et donc, aujourd'hui, on observe essentiellement le ciel dans l'infrarouge, par exemple. Mais on l'observe aussi avec des grandes antennes, comme le projet d'Arecibo, avec les grandes antennes du projet ALMA aussi. Vous voyez, donc, les professionnels travaillent dans toutes les longueurs d'onde et avec des télescopes beaucoup plus puissants. Et puis, bien sûr, dans le spatial. Hein, beaucoup de télescopes ou d'instruments de mesure de l'espace tournent autour de la Terre ou même bien plus loin. Donc, ça a été très vite, ça a été très vite. Et la technologie, le numérique et l'informatique ont complètement révolutionné notre activité. Nous-mêmes, nos jeunes, aujourd'hui, font de la photo avec des ordinateurs et des caméras numériques. Et donc, ça a complètement révolutionné. C'est pour ça que ce télescope, c'est devenu un petit peu un musée. C'est un peu notre ancêtre, c'est un peu notre... Ben voilà, on l'a fait nous-mêmes, mais il est dépassé aujourd'hui par toute la nouvelle technologie, bien sûr.
Donc, avec un télescope comme celui-là, Jean-Michel, on peut observer, bien sûr, on peut aussi prendre des photos.
Alors oui,
la photographie, c'est l'une des principales disciplines, hein, d'ailleurs, que vous proposez ici à l'association Orion.
Alors la photographie est une discipline à part entière en Orion. Donc nous avons déjà fait des expositions au Conseil Général, à la mairie de Saint-Julien-Chapteuil. Et bien sûr, toutes ces photos sont à l'Observatoire du BETS et nous les présentons au public. Alors cet instrument, bien sûr, au départ était fait pour faire de la photo, mais comme vient de le dire Alain, nous avons aujourd'hui, grâce à l'informatique, donc sur l'esplanade, une nouvelle installation avec une nouvelle monture, un nouvel télescope et bien sûr toute la panoplie informatique qui va avec et qui va nous permettre, grâce aux caméras CCD, d'enregistrer des images très très rapidement. Et après, il y a tout un travail de montage grâce à des logiciels qui vont nous permettre d'acquérir de magnifiques images.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure le moteur, hein, pour la mise en route. C'est-à-dire qu'un télescope là, comme celui-là, ça consomme pas mal ?
Ah non, ça consomme très peu, puisqu'il est très équilibré. Ce télescope est monté sur deux axes complètement équilibrés. Et il faut un tout petit moteur qu'on voit là-dessous, une courroie. On fait tourner une tige à un tour par minute, vous voyez l'axe là-bas. Et on a un réducteur de vitesse qui fait que ce mouvement, en fait, qui est rapide, si on le regarde de l'extérieur, la Terre tourne rapidement, bien sûr, mais sur une journée, elle fait le tour sur elle-même en 24 heures, on l'a dit. Eh bien, on voit le Soleil se déplacer lentement dans le ciel. Les étoiles, c'est la même chose. Les planètes, c'est la même chose. Donc, c'est ce mouvement-là qu'il faut compenser. Donc, ça ne nous demande que quelques watts de consommation. Après, ce qui va demander plus d'énergie, c'est l'informatique, c'est la prise de vue. C'est, comme disait Jean-Michel, des photos et tout ça. Voilà. Non, c'est l'avantage d'un télescope comme ça, c'est qu'il est bien équilibré. Il est bien en station et il permet d'être utilisé facilement et rapidement.
Alors sur les appareils photo, il y a la fonction, on va dire, prise de vue automatique, prise de vue normale. Est-ce que pour un télescope, c'est la même chose ? J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a un réglage de base, un réglage standard pour que à chaque fois que vous le mettez en route, vous n'ayez pas à faire un long réglage, une longue mise au point ? Comment ça se passe au démarrage ? Alain ?
Oui, mais au démarrage, c'est assez simple. On va choisir l'objet. Déjà, ce qui est très important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va photographier ? Dans quelle partie du ciel on va aller se promener ? Et quel champ j'ai besoin d'ouvrir mon télescope ? C'est-à-dire, c'est comme en photo, on va ouvrir plus ou moins le champ, l'ouverture du télescope. Et là, la caméra, eh bien, elle va rentrer dans une acquisition de multiples images. Et c'est cette multiplicité des images recomposées, réinitialisées, qui va donner une belle photo. Donc, c'est des séquences de photos qu'on va faire, soit avec un appareil, mais c'est des pauses de quelques minutes, hein, pas forcément très longues. Pas comme on l'utilisait avant en argentique, où là on avait des pauses d'une heure et des fois des choses incroyables, donc beaucoup plus compliquées avec un suivi du ciel. Alors aujourd'hui, c'est l'acquisition de multiples images et de recomposition d'images.
Jean-Michel, une mise au point, ça peut prendre combien de temps ?
Ça peut prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, bien mettre son appareil en station par rapport à l'axe de la Terre, à la rotation de tout ce qui tourne autour de nous. Et donc, faire la mise au point, les réglages informatiques. Bon, nos astronomes photographes ont l'habitude, donc ils sont au point, on va dire, eux. Hein. Donc, ils vont très, très rapidement. Mais on va dire, pour un débutant, ça peut nécessiter une heure, deux heures, voire plus. il y a tout un apprentissage à faire pour l'astrophotographie.
Alors ici, en général, vous positionnez le soir, bon, quand il fait beau, quand la vue est bien dégagée, à partir de quelle heure, là, vraiment, dès que les premières étoiles sont là, ça y est, on peut mettre en route ou un peu avant ?
Alors, on peut mettre en route dès que les premières étoiles apparaissent, alors quand le ciel est bien dégagé. Mais ce soir, il fait très doux à l'observatoire du Bès. Mais nos astrophotographes ont fait des prises de vue par moins 10 degrés avec des glaçons qui se mettaient sur les pare-brises des voitures. Donc, et là, nous avons un ciel très pur quand il fait très froid. Et l'acquisition de photos n'en est d'autant plus belle.
Alors, l'entretien d'un tel appareil, on imagine aussi qu'il faut en prendre grand soin, Alain.
Ah oui, bien sûr, oui, oui. Le miroir, par exemple, va se détériorer petit à petit. Ce miroir, déjà plusieurs fois, on l'a renvoyé à ce qu'on appelle refaire l'aluminure. L'aluminure, c'est la petite surface de bromure d'argent ou de machine d'argent qui est à la surface de quelques microns. Et ça, c'est fait sous vide. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Donc on sait qu'on fait se fabriquer, on sait tailler le miroir, mais on ne sait pas l'alluminer. Donc ça, régulièrement, il faut le refaire. Et de temps en temps, nous aussi, on démonte le miroir pour lui faire son petit bain. Annuellement, de temps en temps, on va lui faire sa petite douche, son petit bain, avec une eau légèrement savonneuse, un petit peu de coton, mais très peu. Moins on y touche, mieux ça vaut. Mais voilà, il y a un petit peu d'entretien sur le miroir. Et le reste, je dirais que la mécanique, eh bien, elle a toujours des améliorations à porter. Notre télescope, on l'a modifié pas mal de fois. Donc ça, c'est une autre aventure. Mais bon, voilà, c'est pour aujourd'hui, ce télescope, on n'y touche plus beaucoup maintenant parce qu'il arrive à son maximum de possibilités qu'il nous offre. Ça a été supplanté, comme on le disait tout à l'heure, par le numérique et l'informatique.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir permis de lever le voile, hein, en tout cas, sur cet instrument qui, vous me disiez, Alain, à l'instant, est très ancien, qu'il faut préserver aussi.
Oui, alors tout ça, évidemment, en faire d'astronomie, ça implique quelque chose de fondamental. C'est d'avoir un ciel de qualité. Et pour avoir un ciel de qualité, il faut un ciel noir, évidemment. Or, un ciel noir, il y en a de moins en moins. Le ciel noir, les astronomes, depuis un certain nombre d'années, leur premier instrument, je dirais, les gens des villes, ben, c'est la voiture. Il faut s'écarter des villes, il faut chercher des zones noires, et ça devient extrêmement difficile. En France, il ne reste plus beaucoup de zones non polluées par la pollution lumineuse.
Hein. C'est l'une des missions d'ailleurs de l'association, hein, lutter contre cette pollution lumineuse. Hein. On sait qu'il y a des efforts, il y a des labels qui sont adressés aux villes qui respectent ces normes-là.
Tout à fait, mais là on sort d'un autre cadre, hein. On n'est plus du tout dans Orion, parce que l'association de protection de l'environnement nocturne, dont je suis le représentant du département en tant que correspondant, c'est ma deuxième casquette. Hein. Donc je parcours le département pour sensibiliser l'opinion publique d'une part, mais aussi surtout les municipalités qui, elles, ont les possibilités d'agir sur leur éclairage public. Et donc, depuis plusieurs années, cette association, qui a une vingtaine d'années, elle aussi, a sensibilisé progressivement. Au début, c'était très dur. Les gens se mettent dans le noir ou éclairer autrement, c'était pas dans la mode des habitudes. Alors, ceci dit, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas du tout et de loin important pour les astronomes. Les astronomes, bien sûr, il faut trouver un ciel noir, mais là derrière, c'est un enjeu beaucoup plus important qui est la qualité de la biodiversité. On parle de réchauffement climatique, on trouve tout ça, donc on consomme beaucoup d'énergie, on gaspille de l'énergie, donc il y a des économies à faire de ce point de vue-là, mais ce qu'on a oublié, c'est que la vie a besoin de la nuit. L'alternance du jour et de la nuit existe depuis toujours sur notre planète, et c'est que très récemment, hein, qu'est-ce que c'est, 100 ans, 200 ans, ce n'est rien du tout, eh bien, on a modifié complètement l'horloge interne du vivant. Donc des gens aujourd'hui vivent complètement déréglés par rapport à la nuit et le jour. Et cette alternance du jour et de la nuit est très importante. Or aujourd'hui, eh bien voilà, avec notre lumière qui n'est pas toujours bien orientée, qui est trop puissante ou qui est mal placée, souvent qui n'éclaire pour rien, eh bien c'est du gaspillage et ça a un impact important sur toute cette vie. La vie a besoin de la nuit, c'est quelque chose de fondamental qu'on a oublié. Et donc cette idée de l'association de la NPCEN, eh bien c'est justement de labelliser des communes qui font effort, qui passent un concours assez difficile tous les deux ans pour dire, ben voilà, notre commune est rentrée dans une démarche de protection de l'environnement nocturne, et voilà, il y a un label, ils remplissent un concours, ils signent une charte, et je m'occupe, je suis un petit peu tout ça. Donc en Haute-Loire, c'est quand même déjà 20 communes qui sont rentrées dans cette démarche, et pour le concours 2017, eh bien j'en ai 15 autres aussi qui sont dans la démarche du label, qui devrait finir au 15 septembre, on aura des résultats en fin d'année, là. C'est un bon travail, les élus qui s'engagent dans cette démarche, vraiment, il faut qu'ils prennent ça au sérieux. L'information auprès de la population, pourquoi on coupe, pourquoi on fait des économies, pourquoi on change de lampadaire, quel type de lampadaire, quelle puissance, est-ce qu'on met des lumières partout. C'est de se reposer tout simplement les bonnes questions, j'éclaire où, quand et comment. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine, mais je crois qu'aujourd'hui le public, et je suis très surpris de voir beaucoup de gens, j'en avais encore tout à l'heure dans la coupole, qui disaient, mais oui, mais bien sûr, il faut qu'on change nos habitudes. Donc c'est très intéressant de suivre tout ça. Bon, ça me fait un petit peu de voyage dans le département, mais c'est très agréable.
Eh bien, en tout cas, merci pour vos éclairages, hein, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Messieurs, on suivra ça de près, même si, vous l'avez dit, il y a des efforts qui ont été faits par des communes, et de plus en plus, en tout cas, dans le département. On va redescendre, nous, tranquillement, les escaliers. Voilà, Jean-Michel Levialy qui soulève la trappe, on va être prudent. Et je vais passer le témoin, moi, à Stéphane Longin. Normalement, je vais redescendre de cette coupole sans trop de soucis. On croise les doigts. À tout de suite, Stéphane.